À combien plus forte raison serez-vous puni, vous aussi, si vous négligez une telle entreprise de salut qui a été inaugurée par le Christ, le Verbe de Dieu lui-même. Et de fait,
il n'y aura pas de témoignage plus grand.
Il ne peut pas y avoir de plus grand témoignage. Et de fait, de nombreux fléaux se sont abattus sur les chrétiens au cours de l'histoire, tout autant que sur les juifs dans l'Ancien Testament. Parce que malheureusement, les chrétiens n'ont pas été fidèles à l'évangile. Alors, il nous reste un septième texte extrêmement important sur lequel nous devons nous appuyer pour croire fermement au mystère de l'incarnation. Ce septième texte est rapporté par saint Pierre dans sa deuxième épître. Il est à Rome et il sent, l'apôtre, que les derniers jours pour lui sont arrivés et qu'il va bientôt quitter cette tente, comme il dit, c'est-à-dire être immolé pour le Christ. Et avant de partir, il laisse un dernier message aux chrétiens.
Son testament.
Son testament, en quelque sorte. Et il leur dit, « Je tiens à vous rappeler que ce n'est pas par des mythes sophistiqués que nous vous avons appris la seigneurie de notre Seigneur. Mais nous avons été les témoins oculaires de sa gloire lorsque nous étions sur la montagne avec lui. » Et que nous avons été sous la nuée et entendu cette voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et nous avons été les témoins de la majesté de cette gloire du Christ. Saint Pierre résume en quelque sorte tout dans son enseignement dans le mémorial de la transfiguration.
Qui est rapporté aussi dans l'Évangile.
Oui, la transfiguration est rapportée par les trois synoptiques. Et le texte important de la transfiguration, c'est la parole du Père. C'est la parole du Père qui désigne Jésus-Christ. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et cette parole est la même que celle qui a été prononcée le jour du baptême de notre Seigneur, rapportée aussi dans les trois synoptiques. Si bien que la parole du Père, qui est le témoignage fondamental, comme le dit saint Jean, nous recevons le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Donc ce témoignage du Père sur le Christ figure sept fois dans le Nouveau Testament.
En tout,
une fois dans saint Pierre et six fois dans les évangiles. C'est donc le texte fondamental de l'évangile. C'est le sommet de l'évangile. Le sommet de l'évangile, c'est « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Écoutez-le. »
Donc il est aussi participant de la divinité.
Il est participant de la divinité puisque le Père met ses complaisances éternelles dans son Verbe. Et il les met aussi dans cet homme, Jésus-Christ, qui est venu porter le témoignage authentique de sa pensée éternelle sur nous, de sa pensée primordiale, transgressée au commencement, mais rétablie pour la conception et la naissance du Christ. Voilà l'Évangile.
Alors maintenant, comment est-ce que l'Église, au cours des âges sans doute, est arrivé à définir le dogme de l'incarnation?
Eh bien oui, c'est toute l'histoire de ce dogme de l'incarnation. Dire que le Christ est Dieu et qu'il est homme en même temps, cela soulève beaucoup de problèmes. Et dès les premiers temps, il y a eu de nombreux hérétiques qui ont dit non, il n'est pas vraiment Dieu. Ou bien alors, il a pris une apparence d'homme. Les Docètes, par exemple, qui disaient non, il a fait comme un ange, comme l'ange qui est venu et qui
comme
est venu,
Raphaël.
comme Raphaël, oui, qui est venu auprès de Toby et qui a pris une apparence d'homme pendant un certain temps pour guider Toby, et puis ensuite qui a disparu, même le Christ. Il est venu jouer une espèce de comédie, de théâtre, dans une nature humaine empruntée, qu'il a fabriquée comme ça, artificiellement. Et puis il y a eu d'autres hérétiques qui ont nié carrément que le Christ soit Dieu, bien entendu. On a vu l'arianisme et tout ça. Bon, qui ont lutté contre ce mystère. Et finalement, le mystère a été parfaitement défini lorsque Saint Léon le Grand, dans son Thomas Flavien, c'est une lettre, une grosse lettre qu'il a écrite à Flavien, qui était évêque de Constantinople, où il a défini d'une façon définitive les termes par lesquels on peut avoir l'intelligence de ce mystère. Et les termes, c'est qu'il faut distinguer la nature et la personne. Le Christ a la nature divine, éternelle avec le Père, comme Verbe de Dieu. Et il a une personne divine. Et en même temps, cette même personne divine s'est revêtue de la nature humaine, l'a prise entièrement depuis la conception jusqu'à la croix, où il a porté témoignage jusqu'à la mort et jusqu'à la résurrection dans la gloire. Donc, cette personne divine a pris la nature humaine, exactement semblable à la nôtre, hormis le péché. C'est-à-dire qu'il n'a pas été conçu dans le péché comme les autres hommes. Il a été conçu dans la justice, et c'est la véritable nature humaine qu'il a prise pour nous montrer quelle doit être la vraie nature humaine. Donc, dans le Christ, il y a une personne divine, qui est la personne du Verbe de Dieu, et il y a deux natures, la nature divine et la nature humaine, qui subsistent l'une et l'autre, sans division et sans confusion. Ainsi, par cette distinction de la nature et de la personne, nous comprenons très bien le mystère. Alors que dans la Trinité, il y a une nature divine, qui est commune aux trois personnes divines, et il y a trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Un seul Dieu en trois
Un
personnes.
seul Dieu en trois personnes. Et dans le Christ, il y a une seule personne qui a deux natures. La nature divine qu'il a dans la Trinité,
Qu'il n'a pas perdu.
qu'il n'a pas perdue, et la nature humaine qu'il a prise dans le temps pour nous faire la pleine démonstration de la vérité. Ça y est. À partir de cette définition du mystère de l'incarnation, la foi n'a plus bougé, établie définitivement.
Alors, au sein de la Trinité, il y a quand même eu un grand événement, parce que le Christ, enfin le Christ, le Verbe, disons, qui était Dieu avec le Père de toute éternité,
Oui.
bon, du fait qu'il a pris la nature humaine, maintenant il a deux natures, et ces deux natures qu'il va garder
Qui
éternellement.
va garder éternellement.
Donc il s'est passé quelque chose, on peut dire, au sein de Dieu, on
Au
peut
sein
dire.
de Dieu. Et au sein de Dieu, il s'est passé quelque chose définitif, de définitif
Et de nouveau.
et de nouveau, oui, effectivement. Il y a eu un changement en Dieu, en quelque sorte, quand la seconde personne a revêtu la nature humaine. Et alors, tout ça nous pose des problèmes, parce que comment est-ce qu'une nature divine peut habiter dans une nature humaine?
Oui.
Et alors là, justement, c'est là que la science d'aujourd'hui nous ouvre des perspectives qui échappaient aux anciens. Parce que, ayant scruté la perfection de la nature humaine, c'est-à-dire du corps humain, et particulièrement du cerveau, nous voyons que le cerveau est d'une complexité inimaginable. Il y a une trentaine de milliards de cellules dans le cerveau. Ces cellules, une de ces cellules à elle toute seule, est bien plus compliquée que le plus grand ordinateur du monde. Et toutes ces cellules sont reliées les unes aux autres par un nombre prodigieux de jonctions qu'on appelle les synapses. Ces travaux ont été faits au début de ce siècle. Et on a découvert que le cerveau humain avait des capacités inimaginables.
Infinies.
Infinies, pratiquement infinies. Et qu'on pourrait mettre dans une mémoire humaine tout ce qui est mis dans toutes les bibliothèques du monde.
Donc Dieu peut s'incarner dans une nature humaine.
Dieu peut s'incarner et s'exprimer dans une nature humaine. Le véritable temple de Dieu, capable de le contenir, est capable de lui donner en quelque sorte une assise où il est confortablement installé, eh bien, c'est le corps du Christ. Dieu, autrefois, a choisi, le peuple de Jérusalem, le peuple d'Israël pour manifester ses desseins, et au milieu de ce temple, il a voulu résider dans un temple. Mais ce temple était figuratif.
Oui.
Il est figuratif, oui. Et les prophètes disaient, Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme.
Oui, évidemment.
C'est évident.
Puisqu'il est le créateur du ciel et de la terre.
Il est le créateur du ciel et de la terre. Le ciel et la terre sont à Dieu, et il remplit tout l'espace. Mais le vrai temple, la vraie résidence de la divinité, c'est le corps du Christ. Ça y est, c'est bon.
Et inversement, par ricochet, si je puis dire,
oui.
C'est une promotion formidable pour l'homme
oui.
Que le Christ soit Dieu.
Mais bien entendu, c'est ce que saint Athanase dit, n'est-ce pas ? En prenant la nature humaine, ce n'est pas Dieu qui s'est humilié dans l'homme, mais c'est l'homme qui a été élevé jusqu'à Dieu.
Oui.
C'est très beau,
oui.
Merveilleux. Or, au XXe siècle, au début de ce siècle, un petit peu à la fin du siècle dernier, il y a une personne qui s'appelle Teresa Higginson qui a reçu des révélations du Christ, où le Christ a demandé à cette personne que l'on vénère et que l'on adore sa tête, son cerveau, son chef sacré. La dévotion au chef sacré du Christ. Et cette dévotion arrivait juste à point pour montrer que la science moderne donnait son assentiment à la foi. Or, il s'est produit qu'ayant négligé cette dévotion qui devait être importante et que l'Église aurait dû promulguer...
Le Christ, d'ailleurs, avait demandé qu'elle soit célébrée, je crois, le vendredi qui suit la fête du Sacré-Cœur.
Voilà, le vendredi qui suit la fête du Sacré-Cœur. On devait vénérer le chef sacré du Christ.
Comme étant le temple de la sagesse divine.
Comme le temple de la divine sagesse. Et pour montrer que le cœur du Christ, le cœur c'est-à-dire l'amour du Christ, l'amour miséricordieux du Christ, c'est pas un amour aveugle.
Oui.
C'est un amour qui est dirigé par une intelligence divine, supérieure, transcendante. Tous les mouvements du cœur du Christ sont soumis à son cerveau. Il y a une intelligence qui dirige le Christ, qui dirige tous les mouvements de son cœur et de son corps, et qui dirige aussi l'œuvre de la rédemption. Cette dévotion au chef sacré du Christ est extraordinaire. Et dans cette dévotion, dans les révélations qui ont été faites à Teresa Higginson, il y a des paroles qui confirment que tous les membres du corps et tous les organes du corps ont leur image dans le cerveau. Et que c'est à partir du cerveau que la vie de l'homme, est ordonnée. Voilà. Le mystère de l'incarnation, finalement, c'est la découverte que le temple vrai et immortel de la divinité, c'est le Christ dans sa nature humaine, intègre et totale. Et c'est la pleine réconciliation de la nature humaine avec la nature divine. C'est par le Christ que nous pouvons obtenir la pleine réconciliation avec le Père.
Quand le Christ est venu en ce monde, il a pris un corps, mais un corps terrestre.
Terrestre.
Soumis aux éléments de la terre.
Oui.
Hein? Et dans sa résurrection, par contre, à ce moment-là, il avait un corps glorieux.
Mmh.
Et ce corps glorieux, au moment de l'ascension,
oui.
Quand le Christ est remonté auprès du Père,
oui.
Dans les cieux,
mmh.
Il l'a gardé.
Il l'a gardé, absolument. Absolument, il l'a gardé.
Donc qu'est-ce que c'est que ce corps glorieux ?
Eh bien, justement, c'est très important, cette notion de corps glorieux. Parce que lorsque le Christ s'est manifesté le soir de Pâques à ses apôtres qui étaient réunis dans le Cénacle, ils ont d'abord été stupéfaits de le voir et à la fois émerveillés et tellement contents, tellement émerveillés qu'ils s'imaginaient voir un esprit. Parce que le Christ s'était manifesté près d'eux sans avoir besoin d'ouvrir la porte. Il était passé à travers les murs et il était là, avec son corps glorieux. Et il leur dit, pourquoi doutez-vous? Ce n'est pas un esprit que vous voyez, mais c'est bien un corps. Regardez, regardez mes mains, regardez mes pieds. Et il s'est fait toucher aux apôtres. Et même il leur a dit, est-ce que vous avez ici quelque chose à manger? Et effectivement, il restait encore un petit peu morceau de poisson grillé et un rayon de miel, différents mets par là qui traînaient encore sur la table. Et ils l'ont donné au Christ et il a mangé devant eux pour leur montrer que c'était bien un corps. Et après leur avoir parlé, les avoir exhortés pendant un certain temps, de nouveau, il a disparu. Il s'est dérobé à leurs yeux.
Donc il avait des propriétés particulières.
Particulières. Et de même les disciples d'Emmaüs, il a cheminé avec les disciples d'Emmaüs pendant un certain temps sur la route. Ils ont entamé un dialogue dans lequel le Christ les a plus ou moins réchauffés, a fait disparaître leur découragement. Quand ils sont arrivés dans la maison, ils étaient à table, il prit du pain, le rompit, le leur donna. Et au moment où il leur donna le pain, voilà qu'il disparaît. Donc, il y a un corps sensible, visible, qu'on voit, que l'on entend, et ce corps a des propriétés extraordinaires, par rapport aux propriétés ordinaires du corps.
Et il est monté au ciel.
Et il est monté au ciel avec son corps glorieux. Bon, alors on peut se poser beaucoup de questions sur le corps glorieux, qui est une grande merveille, mais aujourd'hui, que nous connaissons les structures de la matière et que nous savons que la matière est faite avant tout de vide entre les atomes et entre les molécules et entre les noyaux des atomes et les électrons des atomes, etc. La matière terrestre, celle des métaux, celle de l'air, celle de l'eau, celle de tous les éléments, cette matière a une structure géométrique extrêmement ténue, extrêmement délicate. Et il y a des corps qui peuvent passer les uns à travers les autres. Il y a des corps qui laissent passer la lumière et les particules, et d'autres corps qui arrêtent le passage de la lumière, selon leur qualité, leur nature. Donc, on peut imaginer que le corps glorieux a des propriétés particulières au niveau de l'atome et des molécules. Et que les atomes et les molécules du corps glorieux sont ordonnés d'une façon cohérente qui leur donne des propriétés merveilleuses. Et que ces propriétés peuvent être abandonnées à un certain moment pour que le corps revienne sous son aspect terrestre et qu'elles peuvent être reprises pour que le corps, à ce moment-là, puisse échapper aux conditions de la température, de la pression et de tout ce que nous connaissons sur la Terre comme des conditions même de notre vie. Le corps n'est plus soumis aux éléments de ce monde. Il est transcendant aux conditions terrestres. Cette notion du corps glorieux est très importante. Aujourd'hui, les hommes veulent conquérir l'espace et ils partent avec des fusées pour s'en aller au-delà de la pesanteur et grimper un petit peu plus haut que l'atmosphère, mais avec des risques et une fragilité extrême. Mais ce rêve de conquérir l'espace, c'est exactement l'héritage qui a été promis à Abraham quand Dieu lui dit « Compte les étoiles du ciel, telle sera ta descendance. » Et le Christ nous dit « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père et je vais vous préparer une place. » Donc nous savons que ce n'est pas la terre seulement qui a été donnée aux hommes, mais c'est l'univers entier qui est promis comme l'héritage à ceux qui atteindront la justification, la sanctification et la gloire pour la partager avec le Christ.
Oui.
Si bien que normalement, si les chrétiens sont véritablement fidèles aux paroles qu'ils ont reçues de Dieu, s'ils les mettent en pratique, eh bien, ils auront l'accomplissement des promesses. Et la promesse du Christ fondamentale, c'est « en vérité, je vous le dis, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. » C'est la suppression de la mort.
Oui.
L'immortalité, ce n'est pas de rester indéfiniment dans ce corps terrestre, mais c'est que ce corps terrestre se transforme en corps de gloire. C'est ce que dit saint Paul. Le Christ a le pouvoir de transformer notre corps de misère, dit-il, pour le conformer à son corps de gloire. Il dit aussi, dans l'Épître aux Thessaloniciens, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Donc le but de la créature humaine, ce n'est pas de mourir et de ressusciter, quoique jusqu'à présent, la plupart des hommes mourront, sont morts et ressusciteront. Nous croyons à la résurrection de la chair, nous savons très bien.
C'est un article du Credo, d'ailleurs.
C'est un article du Credo. Mais le but, c'est d'acquérir l'assomption, la transformation du corps terrestre en corps de gloire. C'est ce qui a été réalisé dans le cas d'Élie et d'Enoch dans l'Ancien Testament, et ce qui a été réalisé par la Vierge Marie dans le mystère de son Assomption.
Autre point important, me semble-t-il, en ce qui concerne le mystère de l'Incarnation. On dit, enfin, l'Église dit, a défini, que la Vierge Marie a conçu le Christ, par l'Esprit Saint bien sûr, mais qu'elle l'a conçu dans sa virginité, qu'elle l'a enfanté dans sa virginité, et qu'après l'avoir enfanté, elle était demeurée vierge. Elle est demeurée vierge. Donc, comment s'explique cette virginité perpétuelle de Marie ?
La virginité perpétuelle de Marie a été proclamée dès le 5e siècle par cette formule latine, prononcée la première fois, je crois, par le pape Innocent Ier, saint Innocent Ier. Virgo concepit, virgo peperit, virgo permansit.
C'est-à-dire ?
Ce que tu viens de dire.
Oui.
Elle a conçu
vierge.
Elle a enfanté vierge.
Elle
est demeurée vierge. Eh bien, on dit, on pense que c'est une exception. Remarquez, c'est un dogme de foi. Parce que depuis saint Innocent Ier, au cours des siècles, les papes ont répété cette formule. Les conciles l'ont répété aussi. Ainsi que le concile de Trente l'a répété. Et le concile de Lyon en 1274 a bien précisé, c'est un dogme de foi, que la virginité perpétuelle de Marie avant l'enfantement, pendant l'enfantement et après l'enfantement. Par conséquent, si on est catholique, on doit tenir cette affirmation comme un théorème démontré définitivement. Donc on ne peut plus mettre en doute cette vérité. Mais alors, pourquoi fait-elle difficulté ? La difficulté vient de ce que nous ne sommes pas habitués à ce genre de conception et de
naissance.
Mais les premiers qui ont été témoins de la naissance du Christ, ce furent d'abord Saint Joseph et Sainte Marie elle-même, bien entendu. Et ce furent les bergers de Bethléem. Et les anges qui sont venus chanter, justement, ce jour-là sur la terre, parce que, enfin, la sentence qui pesait sur la femme, tu enfanteras dans la douleur, cette sentence était levée. C'était un grand triomphe de la création de Dieu qui retrouvait sa gloire.
Oui, d'ailleurs, c'est un scandale que la femme enfante dans la douleur.
Mais bien sûr que c'est un scandale.
pour l'avènement
La difficulté, c'est que la femme enfance dans la douleur. C'est pas qu'elle enfante dans la joie et l'allégresse.
Oui, c'est là qu'elle
a... La difficulté, elle est de notre côté. L'obscurité, elle est de notre côté à nous, mais non pas du côté du Christ et de la Vierge.
Alors, comment la Vierge a-t-elle enfanté?
Alors, elle a enfanté par le fait que, au moment où son heure était venue d'enfanter, bon, elle s'est trouvée dans l'étable de Bethléem, c'était très bien, parce que là, il y avait une crèche qui allait servir de mangeoire, ça allait être le symbole de l'Eucharistie, qu'elle allait pouvoir donner à manger, comme on donne à manger aux bestiaux dans une mangeoire. Bon, c'est très bien. Il y avait dans cette simplicité, cette pauvreté qui convenait effectivement à Dieu, qui n'a pas besoin, pour être honoré des saints et des anges, d'avoir des grands palais avec des cierges, avec des lampadaires, avec toutes sortes de gens. Ça n'a rien à voir. La divinité se satisfait d'elle-même, de sa propre majesté, bien entendu. Et alors, ce qui s'est passé pour la Vierge, c'est que, dans ces conditions de simplicité et de pauvreté, eh bien, son corps a revêtu les caractères du corps glorieux. C'est-à-dire qu'elle s'est trouvée dans une extase divine, par laquelle son corps est devenu comme transparent à la lumière pour laisser passer le Christ à travers sa chair sans qu'il la déchire. Virginité pendant l'enfantement et après l'enfantement. Et c'est ainsi que la maternité virginale a été manifestée au moment de l'incarnation du Verbe, et nous avons là un enseignement qui nous dit, voilà quelle était la pensée du Père sur la génération humaine. Cette pensée au-dessous de laquelle vous êtes toujours resté pour enfanter dans la douleur des enfants misérables qui vont être chargés de toutes sortes de maladies et qui vont avoir la mort dans la peau. Tandis que le Christ, lui, nous a fait la démonstration, dans le mystère de son incarnation, de sa naissance, la démonstration de la pensée éternelle de Dieu sur la créature humaine, en particulier sur le sanctuaire de la vie, qui est le sein virginal, fermé par le voile, dont le voile du temple de Jérusalem était le symbole. Comme le dit aussi le prophète Ézéchiel, « Cette porte sera fermée, on ne l'ouvrira pas, car le roi est passé par là. » Et Saint Jérôme...
Donc, il est passé par une porte fermée.
Par une porte fermée. Et Saint Jérôme, en contemplant ce texte du prophète Ézéchiel, dit voilà quelle était l'annonce de la maternité virginale par laquelle le Christ est venu sur la terre. Voilà.
Et les bergers à Bethléem ont dû voir encore cette gloire qui revêtait la Vierge.
Oui, ils ont vu cette gloire. Et c'est pour ça qu'ils ont compris tout de suite que les anciennes sentences étaient tombées et que c'était vraiment le Sauveur qui était né. Le Sauveur de la chair humaine qui était né, qui était là. Voilà. Et c'est pourquoi le mémorial de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, le mémorial gravé dans les mémoires, ce mémorial a toujours subsisté.
Oui.
Il subsiste dans la liturgie, bien entendu, qui célèbre la fête de Noël avec une joie immense. Demain sera détruite l'iniquité de la terre. Voilà ce qu'on chante aux premières vêpes de Noël. Demain sera détruite l'iniquité de la terre. Donc l'Église et les chrétiens se réjouissent de la fête de la nativité du Christ, et ils ont bien raison. C'est l'incarnation du Verbe dans les entrailles d'une vierge. D'accord. Mais non seulement les chrétiens se réjouissent, mais même le monde païen, le monde impie se réjouit aussi. Les villes s'illuminent de toutes sortes de flambeaux, de lampions, de guirlandes de lampes. On dépense des kilowatts d'électricité. Dans les magasins, il y a des guirlandes, aussi bien dans les restaurants que dans les boulangeries. Et les bazars regorgent de jouets qu'on donne aux enfants. Cadeaux innombrables dont ils n'ont nul besoin d'ailleurs. Et on illustre encore toutes ces choses par le Père Noël. Ah, le Père Noël arrive avec sa barbe. Et il y a des quantités de chômeurs à ce moment-là qui s'engagent dans les magasins pour faire le rôle du Père Noël. C'est extraordinaire. Eh bien, c'est très bien. C'est très bien parce que ça prouve qu'il y a une sorte de mémoire chromosomique, je dirais. Une mémoire incrustée dans la nature humaine que, pour Noël, l'iniquité de la Terre va disparaître.
C'est un peu dans le subconscient.
C'est, je dirais, dans le subconscient, oui. Mais c'est vrai. C'est une intuition juste. Parce que c'est ce que nous attendons. Nous attendons effectivement que les sentences qui ont été portées au paradis terrestre après la chute, que ces sentences qui ont assombri 6000 ans d'histoire, que ces sentences disparaissent enfin et que nous ayons vraiment, cette fois, la rédemption de la chair humaine.
Alors tout ceci nous amène au mystère de la rédemption.
Justement, nous amène au mystère de la rédemption.
Alors qu'est-ce que la rédemption ?
Le mot rédemption veut dire rachat. Et dans le terme latin du mot, on a souvent comparé la rédemption au rachat d'un esclave. Nous étions asservis à l'ange des ténèbres. Et le Christ est venu nous racheter de cet esclavage. Cette idée a été fortement exploitée par les pères latins, justement, parce que dans le monde latin, il y avait les esclaves et les hommes libres. Et ça correspondait bien à la situation sociale. Mais dans le texte grec de l'Écriture, il y a aussi cette idée de rachat, notamment dans l'Épître aux Galates, où saint Paul nous dit « Vous avez été rachetés de la servitude de la loi. Vous avez été rachetés de la servitude de la loi par le sang précieux du Christ qui a payé votre rançon. » Donc, l'idée de rachat est parfaitement dans l'Écriture. La servitude de la loi, pourquoi de la servitude de la loi ? Parce que la loi de Moïse, qui dirigeait en quelque sorte le patriarcat judaïque, elle donnait la connaissance du péché à celui qui voulait bien faire attention aux rites et à leur signification spirituelle. Elle donnait le sens du péché. Et elle maintenait dans le peuple juif l'idée que si la mort frappait toutes les générations successives, c'était parce que Dieu avait été offensé par un péché, qu'il fallait racheter par un sacrifice. Toute la loi, c'était, comme le dit saint Paul, le ministère de la condamnation. C'est-à-dire que il fallait racheter des gens qui étaient condamnés. Il fallait les arracher de leur prison, de leur servitude. Voilà l'idée de la rédemption. Mais dans le texte hébreu lui-même, le mot qu'on a traduit par rédemption, c'est le mot qui figure dans le nom propre de l'archange Raphaël. Raphaël, Rapha. Rapha, c'est un verbe hébreu qui signifie recoudre, recoudre. Faire comment est-ce qu'on dit les femmes là quand elles font, elles reprisent les chaussettes.
Oui,
voilà,
une reprise.
Il faut reprendre les maillons et les remettre ensemble pour réparer le tissu qui a été déchiré. Voilà, c'est ça, Rapha. Donc, la rédemption, dans le terme hébreu, ça veut dire que le tissu, on dit les tissus du corps, les tissus humains.
Les tissus cellulaires.
Nous sommes dans les tissus. La biologie a montré que nous sommes fabriqués comme un tisserand qui a fabriqué des tissus avec une dextérité et une finesse extraordinaire. Et tout est fait avec une géométrie de dentelle extraordinaire. Les dentelières sont des géomètres très précises pour faire avec un seul fil toutes sortes de circonvolutions qui vont faire un tissu extraordinaire. Eh bien, c'est la même chose. Le corps humain est un tissu qui a été déchiré. Il y a des déchirures dans le corps humain. Et ces déchirures apparaissent parfois par le fait qu'il y a une blessure qui saigne, d'accord, mais ces déchirures sont beaucoup plus profondes. Et la science humaine, la science biologique aujourd'hui, elle découvre ces déchirures jusque dans les chromosomes, jusque dans l'articulation intime des cellules génétiques, dans les chromosomes qui portent l'hérédité. C'est-à-dire qu'ils vont déterminer que le fils va ressembler à son père et à sa mère, ou aux deux, ou un peu plus à l'un qu'à l'autre, ça reste très mystérieux, mais ça veut dire qu'un chat ne peut pas enfanter un chien ne peut pas enfanter un chat, et que les espèces sont déterminées par la structure géométrique intime des chromosomes. Or, aujourd'hui, on peut observer ces chromosomes au microscope électronique. Et on découvre toutes les structures intimes d'une chaîne, d'un fil, d'un très long fil, qui est formé d'un grand nombre de maillons, et qu'on appelle les chaînes d'ADN, acide désoxyribonucléique. Voilà. Ce sont des cellules dont on connaît la structure chimique intime, et qui portent une numérotation de toute la programmation qui va être faite pour l'être nouveau. Et on s'est aperçu, hélas, que la chaîne chromosomique porte des déchirures qui ne peuvent pas être réparées humainement.
Oui, c'est là qu'intervient la rédemption.
C'est là justement qu'intervient la rédemption.
Il faut recoudre.
Il faut recoudre. Or, recoudre au niveau de l'acide désoxyribonucléique, c'est impossible. Impossible.
Impossible pour l'homme.
Pour l'homme, bien entendu. Mais ce qui est impossible pour l'homme est possible à Dieu, bien sûr.
Mais ça, ça laisse entendre que la rédemption s'adresse au corps.
Bien entendu.
Et est-ce que dans l'Église, on a vu cet aspect? Parce qu'on a surtout parlé de la rédemption au sens du salut de l'âme.
Ah, voilà. Et voilà. Et voilà le désastre. Et voilà le désastre, c'est que justement, du fait que le Christ ait été ressuscité des morts, bon, ça voulait dire que la mort était vaincue par le Christ, c'était très bien, c'est vrai, c'est tout à fait exact. Mais du fait qu'Aristote avait dit aussi que l'âme est immortelle, et que Socrate, lui aussi, dans son panégyrique, avait bien expliqué qu'après tout, en buvant la ciguë, c'était pas si grave que ça, puisque finalement, il allait partir dans ces régions qu'on appelle les régions de l'Empyrée, où il va de nouveau rencontrer les âmes, les esprits, les personnalités qu'il avait connues autrefois, et il pourra toujours continuer à discuter avec eux pour trouver la vérité. Voilà ce qu'il dit dans ce panégyrique. Donc, dans l'âme grecque, dans l'esprit grec plutôt exactement, dans la civilisation grecque, on avait parfaitement cette idée de l'immortalité de la personne humaine après la mort.
Même les Égyptiens.
Même les Égyptiens, déjà, dans l'ancienne Égypte, puisque tout le culte égyptien était finalement un culte des morts, de façon à assurer le défunt qu'il allait retrouver dans l'autre monde une vie probablement meilleure que celle-ci, à condition toutefois qu'il ait observé la loi divine. Et c'est pour ça que dans les tombes égyptiennes, on trouve des inscriptions où il y a une sorte de confession à rebours, c'est-à-dire « je n'ai jamais volé, je n'ai jamais porté témoignage, je n'ai jamais fait du mal à mon prochain, etc. » C'était les confessions des morts, de façon à ce que lorsqu'ils arrivent devant le jugement qui suit la mort, la balance, hein, voilà.
Anubis,
qui pesait l'âme. Alors là, le mort pourrait s'expliquer et pourrait obtenir une justification qui lui donnerait donc l'accès à l'immortalité.
Voilà.
Donc cette notion de l'immortalité de l'âme a été le fait
très ancienne
et qui correspond déjà à la psychologie profonde de l'homme. Et on sent très bien qu'on n'est pas créé, pour vivre éternellement comme ça sur la terre, qu'il y aura quelque chose après et qu'il y aura un jugement. Et d'ailleurs l'Écriture confirme la chose en disant l'homme ne meurt qu'une seule fois, après quoi il y a le jugement.
Oui, mais là,
il meurt.
Alors que la promesse du Christ,
c'est celui qui croit en ma parole ne verra jamais la mort. Celui qui mange mon corps, qui boit mon sang, ne mourra jamais.
Alors, est-ce qu'il s'agit de la mort corporelle ?
Eh bien, il s'agit certainement de la mort corporelle.
Pourquoi ?
Parce que c'est la mort corporelle qui a été le châtiment du péché.
Alors là, il faut revenir au commencement.
Car il n'y aurait pas de rédemption s'il n'y avait pas de péché.
Oui.
La rédemption est inutile dans un monde sans péché. Si Adam n'avait pas péché et si le péché d'Adam ne s'était pas multiplié au cours des générations successives, si l'humanité avait été restée dans l'immortalité première, la mort n'aurait jamais existé.
Je crois que c'est aussi un dogme de foi de dire qu'Adam a été créé immortel.
C'est tout à fait un dogme de foi. Et c'est un des principaux dogmes de foi qui a été promulgué déjà par le concile de Carthage, un des premiers conciles, vers les années 300, par là, où il est dit clairement que celui qui dit que la mort est naturelle et que qu'Adam est péché ou qu'il n'est pas péché, dans les deux cas, il serait mort quand même. Qu'il soit anathème. Il faut dire que la mort est intervenue à cause de la désobéissance. C'est parce que l'homme a désobéi à la loi divine qu'il a été frappé de la mort. Donc, si l'on disait dans le monde grec, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps, et que l'âme retrouve dans la mort une certaine évaporation, si je peux dire, elle arrive dans un monde où elle peut s'épancher librement, si je peux dire, n'est-ce pas ? Donc, de ce point de vue-là, on pouvait considérer la mort comme une sorte de libération. Non, c'est pas ça. Ça, c'est la pensée grecque. Tandis que dans l'enseignement de l'Église, dans l'enseignement des Écritures, la mort, qu'elle soit séparation de l'âme et du corps ou autre chose, on n'en sait rien, la mort, c'est le châtiment du péché.
Finalement, tout est dans le premier commandement qui a été donné à Adam.
Ah oui, bien sûr.
Si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras de mort.
Tu mourras de mort, c'est-à-dire tu t'engages dans un processus où la mort va s'amplifier de plus en plus. Tu mourras de mort.
Ce qui veut dire aussi que si Adam n'avait pas mangé, il ne serait pas mort.
Il ne serait pas mort. C'est la faute de l'Église. Adam a été créé dans l'immortalité et la justice. Il avait la grâce de Dieu, il avait l'Esprit Saint en lui, comme nous l'avons montré. S'il était resté dans l'obéissance, il aurait gardé son immortalité. Et son corps se serait transformé en corps de gloire lorsqu'il aurait acquis sur terre tous les éléments de la connaissance qui font que l'homme atteint une plénitude extraordinaire. La plénitude du Christ, on peut dire.
Oui.
Voilà. Donc, le péché est très grave. Parce que du fait que la mort est universelle et que c'est un scandale qu'un être rationnel, un être capable de connaissance et d'amour, capable par conséquent d'un bonheur dans une ressemblance avec Dieu, une image et une ressemblance avec Dieu qui n'est pas complètement effacée par le péché, que cet être rationnel puisse disparaître, c'est un scandale.
Et capable aussi de comprendre des vérités éternelles.
Et capable de comprendre des vérités éternelles.
Alors comment admettre qu'un homme qui est capable de comprendre un théorème qui a une valeur éternelle,
oui,
lui, soit corruptible.
Soit corruptible et disparaisse. C'est un scandale terrible. Donc le péché a été très grave. Donc le péché, la désobéissance d'Adam a été très grave.
Oui.
Ce qu'on appelle le péché originel. Le péché originel a été d'une gravité extrême.
Dogme de foi.
Dogme de foi. Voilà.
Mais si vraiment on veut obtenir la rédemption, il faut que ce péché originel soit bien dénoncé.
Soit bien défini et bien dénoncé pour qu'on puisse s'en arracher. Or, sur ce point du péché originel, quels sont les enseignements infaillibles de l'Église ? Ces enseignements ont été précisés au Concile de Trente, dans le décret du péché originel. Dans ce décret sur le péché originel, il y a cinq propositions. qui définissent. D'abord qu'Adam a été créé dans la justice et la sainteté, et qu'il a perdu cet état de justice et de sainteté et d'immortalité par une désobéissance à Dieu. Voilà. Oui. Bon, précise ensuite que cette désobéissance atteint le genre humain tout entier, à l'exception peut-être de la Vierge Marie, parce que le Concile de Trente ne s'est pas prononcé directement sur l'Immaculée Conception de la Vierge.
Oui, ça du fait que tous les hommes sont issus d'Adam.
Tous les hommes sont issus d'Adam. Donc, et par le seul fait de cette génération, le péché originel se transmet à toute la descendance. Le péché originel, dit le Concile de Trente, ne se transmet pas par imitation, par une imitation du comportement, mais il se transmet par voie de génération.
Donc il est biologique.
Donc il est biologique.
Ce qui est très grave.
C'est très grave. C'est une chute dans le domaine biologique. C'est pourquoi le Concile de Trente prescrit qu'il faut baptiser les enfants. Pourquoi ? Ils n'ont pas commis de péché. Personnellement, ils ne sont pas coupables du péché. Ils n'en portent pas la culpabilité. Mais ils ont en eux un péché qui doit être enlevé par la régénération baptismale afin que soit guéri en eux ce qui a été contracté par la génération. Voilà les paroles du Concile de Trente. Et cette parole du Concile de Trente était déjà celle des papes d'autrefois qui se sont trouvés devant le même problème. Est-ce qu'on doit baptiser les enfants qui n'ont pas commis de péché personnel? Et l'Église a toujours dit oui. Oui, c'est la nature humaine
qui est altérée.
Qui est altérée dès la génération. Ça, c'est deux fois.
Ce qu'on voudrait, bien sûr, c'est que le baptême supprime aussi les tares biologiques.
Justement. Il faut distinguer entre le péché, qui est une offense faite à Dieu, et que Dieu voit, même dans un enfant qui n'a vécu qu'un seul jour sur la terre.
Péché qui
comme
pèse...
le dit le livre de Job, même l'enfant qui ne vit qu'un seul jour sur la terre, il n'est pas pur devant Dieu. C'était déjà dans l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce qu'il a été conçu dans le péché. Comme le prophète David le dit dans son psaume, une fois qu'il s'est rendu compte qu'il a commis un grave péché que lui reproche le prophète Nathan, il dit, il constate que le péché est en lui comme une espèce de tare dont il ne peut pas se dégager et que cela vient de ce que ma mère m'a conçu dans le péché, in iniquitatibus conceptus sum. On a répété ce psaume dans l'église depuis le commencement, et je me rappelle au séminaire, on le disait tous les jours, après le repas de midi, on allait faire à la chapelle un moment de prière et d'adoration, et pour se transporter du réfectoire à la chapelle, on récitait tous ensemble le Miserere en latin en disant tous les jours
«
Ma mère m'a conçu dans le péché, j'ai été conçu dans l'iniquité. » Ça y est. Bon.
Donc alors le baptême enlève la faute, l'offense faite à Dieu.
Il enlève l'offense faite à Dieu. Et puisque cet enfant n'a pas commis de péché personnel, un enfant qui est baptisé, il est entièrement purifié de son péché.
Évidemment, au niveau biologique, il aura encore tout un travail de sanctification, de guérison à faire à mesure qu'il grandira, à mesure qu'il apprendra la foi
oui.
Et qu'il demandera la grâce de Dieu
et voilà. Et
pour être pleinement sauvé.
C'est pourquoi, d'ailleurs, on ne peut baptiser les enfants que dans la mesure où on est sûr qu'ils vont pouvoir recevoir une instruction et une éducation chrétienne qui leur permettra de se sanctifier et d'atteindre la pleine justice aux yeux de Dieu par une foi éclairée qui leur permettra d'atteindre la pleine rédemption. Et s'il n'y a pas cette éducation, cette instruction chrétienne vraiment de la foi, eh bien malheureusement, les conséquences du péché vont demeurer et vont faire leur ravage et la mort ne sera pas encore supprimée. Tels sont donc les enseignements du Concile de Trente.
Très important.
Très important qu'il nous faut tenir avec une foi parfaite. C'est donc dans l'axe de ces affirmations très graves du Concile de Trente qui sont toutes mises sous l'anathème.
Ah oui, alors à ce propos, que signifie le mot anathème ?
Anathème, ça veut dire celui qui est frappé d'un anathème, ça veut dire qu'il pense une chose qui le met dans l'impossibilité d'atteindre le salut. C'est très grave. Par exemple, l'anathème, celui qui dit que Adam n'a pas été créé dans un état de sainteté, mais qu'il a été créé au contraire dans un état de péché, et que la mort est naturelle, qu'il soit anathème. Penser une chose comme ça, c'est se mettre dans l'impossibilité d'obtenir le salut.
Voilà. Oui.
C'est très grave d'être anathème. Ça veut dire qu'il est coupé du Christ, qu'il est coupé de la rédemption, qu'il ne va pas pouvoir demeurer en état de grâce devant Dieu. C'est extrêmement grave.
D'accord.
Or, les décrets du péché, sur le péché originel du Concile de Trente, tous les quatre, tous les cinq, sont mis sous l'anathème. Donc il faut les tenir d'une façon absolue.
Absolument.
Et c'est dans cet axe-là du Concile de Trente qu'il nous faut découvrir quel a été l'acte du péché originel. Alors on dit, les mots péché originel, ne sont pas dans l'Écriture. C'est vrai que le mot originel n'est pas lié au mot péché.
Oui, enfin.
Mais cette distinction est advenue dans l'Église d'une façon très juste, depuis saint Augustin jusqu'à saint Anselme, chez tous les pères de l'Église, pour bien distinguer le péché qui nous a été transmis par Adam.
Oui, de génération.
De génération. Et le péché actuel,
oui.
C'est-à-dire celui que chacun peut commettre, et doit ne pas commettre d'ailleurs, dans sa vie, une fois qu'il a l'usage de sa conscience et de sa conduite.
Oui, mais d'ailleurs c'est très bien choisi, parce que le péché originel, c'est le péché qui a été commis à l'origine.
Alors,
le Concile de Trente, il a les mots péché originel.
Ah oui, il a le péché originel, il a le mot péché originel, le Concile de Trente. Mais alors, justement, il se met dans l'axe de saint Anselme, qui distingue bien que le mot originel associé au mot péché signifie non seulement le péché qui fut commis à l'origine, mais aussi le péché que chaque fils d'Adam contracte par sa génération.
Oui, voilà.
Ce qui signifie qu'à chaque génération, il est reproduit. Et là, on rejoint le texte de saint Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, où il dit « Tous les hommes ont péché en Adam parce que ils ont tous péché suivant un péché conforme à celui d'Adam. »
Et voilà. Finalement, c'est le péché qui est à l'origine de toute vie.
Et voilà. Si bien que nous contractons le péché originel parce que à l'origine de notre vie personnelle, il y a eu le même péché de génération qui a été produit. C'est pour ça qu'on ferait bien mieux de dire ce qui est dans l'Évangile. Dans l'Évangile, il n'y a pas péché originel, mais il y a péché de génération. Il y a tout le temps génération adultère et pécheresse. Génération dévoyée.
Oui, voilà.
Génération perverse. Et saint Paul, qui pensait que les chrétiens qui étaient régénérés par le baptême, vous brillez comme des phares de lumière au milieu d'une génération corrompue. Voilà, c'est ça.
La difficulté, c'est que génération a deux sens.
Oui.
De certaine façon, génération, ça veut dire le fait de se succéder. Hein?
Oui.
Et puis il y a l'acte générateur.
Et l'acte générateur, voilà, c'est ça.
Alors, il faut penser à l'acte générateur, pratiquement, quand on dit génération.
Il faut penser aux deux. Il faut penser à l'acte générateur. Donc, le péché, il est lié à l'acte générateur. En effet, si le Concile de Trente nous affirme avec le poids de l'anathème que le péché se transmet par voie de génération, ça veut dire qu'il se transmet par l'acte générateur.
Oui.
Alors, comment pouvons-nous voir que l'acte générateur est pécamineux? Eh bien, nous le voyons d'une façon très claire dans la loi de Moïse. Parce que, dans la loi de Moïse, celui qui ouvre le sein, c'est-à-dire l'enfant qui est né par l'accouplement de l'homme et de la femme, L'enfant qui ouvre le sein, du fait que le sein a été ouvert, que la femme a saigné, que le sang s'est répandu, il y a la preuve, là, qu'il y a une blessure, qu'il y a une erreur, qu'il y a un péché.
Qui ne peut pas être dans l'ordre des choses.
Bien sûr, tout le monde sait bien que quand il prend une hache pour couper un arbre et qu'au lieu de frapper la racine de l'arbre, il se frappe sur le pied, il sait très bien que le sang coule et qu'à ce moment-là, il a fait un acte très dangereux pour lui.
Oui.
Parce que si le sang continue à couler, il va mourir. L'effusion de sang, c'est non seulement une impureté légale, mais c'est une grave faute biologique qui va déterminer la mort. C'est pour ça que la femme qui engendrait un fils était considérée comme impure et qu'elle devait rester chez elle pendant 40 jours, défense d'aller à la synagogue, jusqu'à ce qu'elle ait offert pour sa purification un sacrifice pour le péché. Ça y est.
Oui, voilà.
Et si elle enfantait une fille, elle était impure pendant 60 jours. Et il fallait encore ajouter 20 jours pour la purification, ce qui faisait 80 jours. Pendant ces 80 jours, elle était considérée comme impure, elle ne devait pas aller à la synagogue, elle ne devait pas se présenter dans un lieu public, elle était claustrée dans sa maison.
Mais parce que le sang avait coulé.
Le sang avait coulé. Et en même temps, c'était une loi hygiénique, parce que la femme qui venait d'enfanter était fragile, et qu'elle devait éviter les infections qu'elle pourrait contracter ici et là. Les fièvres puerpérales, on le sait, depuis la plus haute antiquité, sont extrêmement dangereuses.
Et beaucoup de femmes qui meurent dans les couches.
Et beaucoup de femmes qui meurent dans les couches. Et ce temps de réclusion, où tout de même ses amis pouvaient venir la visiter, la consoler, c'était aussi un temps pendant lequel elle se remettait de ses souffrances et elle se refaisait une santé, en quelque sorte.
Oui,
aussi bien psychologique que corporelle. Donc, la génération humaine était frappée par la loi des sacrifices. C'était donc le ministère de la condamnation qui désignait que le péché était là.
Oui.
Qu'il était dans la génération même.
Oui.
Or, ce qu'il y a de très remarquable, c'est que justement, cette loi de la purification, elle est dans l'Évangile. Car la Vierge Marie elle-même, qui, elle, n'a pas enfanté dans le péché, mais qui a enfanté dans sa virginité.
Et sans douleur.
Et sans douleur. Elle est quand même venue au temple offrir le sacrifice pour le péché. Elle a accompli la loi en notre nom. De même que le Christ, quand il est allé trouver Saint Jean-Baptiste, il s'est fait baptiser par Jean.
Il n'en avait pas besoin.
Il n'en avait pas besoin. Et Jean lui dit, mais c'est pas à moi de te baptiser, voyons. Le Christ dit, c'est ainsi qu'il nous faut accomplir toute justice.
Il prend sur lui le péché des hommes.
Il prend sur lui le péché des hommes. Et la Vierge Marie, elle aussi, elle a accepté les lois de purification pour se soumettre à la loi de Moïse.
Elle était juive aussi.
Elle était juive.